Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Petit verset, hein. Mais qui veut en dire long. Que le Seigneur, c'est une prière, c'est un souhait, c'est une prière de l'apôtre Paul, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Alors, il y a plusieurs choses qu'on pourrait retenir ce matin pour notre partage, mais le sujet de la prédication de ce matin sera sur la patience de Christ. Que le Seigneur dirige nos cœurs vers la patience de Christ. Vers la patience de Christ. Être dirigé vers quelque chose, c'est être orienté vers cette chose-là. Et le Seigneur a attiré nos regards vers sa personne, afin que nous puissions suivre ses traces. Il dirige nos cœurs vers sa patience. C'est là une prière et on peut comprendre pourquoi l'apôtre Paul disait ces choses en son temps et qui sont toujours valables pour nous aujourd'hui, surtout lorsque l'on sait que ces deux épîtres aux Thessaloniciens traitent du temps de la fin avec l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que dans ces temps-là, dans ces temps de patience du Seigneur, nos cœurs soient dirigés vers cette patience. Il y a un lien étroit entre l'amour et la patience. Pas étonnant que l'apôtre Paul, ici, y joint les deux. Mais si nous lisions encore dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13 et verset 4, il est écrit que l'amour est patient. La première chose que Paul cite dans la description qu'il donne de l'amour, c'est la patience. Il n'y a pas d'amour sans patience. Il n'y a pas d'amour sans patience. L'amour est patient. L'amour est patient. Et merci Seigneur pour ton amour qui nous amène, nous fait bénéficier de ta patience. Il est important de réaliser la patience de Dieu et de ses différentes implications pour nos vies. Cette patience de Dieu, elle est salutaire avant toute chose, elle est salutaire pour nous. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, verset 15, deuxième épître de Pierre, 3, 15, croyez, est-ce que nous avons cette foi-là, hein? Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Amen. Pierre donc dit que la patience du Seigneur, elle est notre salut. Si le Seigneur s'était montré un seul instant impatient vis-à-vis de nous, je pense que personnellement déjà je ne serais pas là, mais il n'y aurait pas grand monde. Hein. Merci Seigneur pour ta patience. La patience du Seigneur, elle est notre salut et parfois nous avons du mal à comprendre et à réaliser quels sont les temps de Dieu. Au verset 9, l'apôtre Paul, Pierre, excusez-moi, dira ceci, le Seigneur ne tarde pas, il tarde pas, dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Amen. Le Seigneur ne veut pas que nous périssions. C'est pour ça qu'il use de patience dans l'accomplissement de sa promesse. Et à ses yeux, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Il peut ralentir, accélérer le temps. Il est le maître de toutes choses. Il est le maître du temps, il est au-dessus du temps, c'est lui qui a créé toute chose. Le Seigneur est donc patient. Nous le sommes beaucoup moins que lui. Que le Seigneur dirige nos cœurs vers sa patience, vers la patience de Christ. Nous avons parfois du mal à réaliser quels sont les temps de Dieu. Moïse a dû attendre, a dû comprendre ce qu'est d'attendre le temps de Dieu. Moïse allait âgé de 40 ans, cela nous est écrit dans la parole de Dieu, pensait que les enfants d'Israël comprendraient que c'est par lui que Dieu allait délivrer ce peuple. Mais Moïse se trompait de timing, de temps, et se trompait de moyens aussi, puisque il a tué un Égyptien. Et Moïse a dû prendre la fuite. Il s'est trompé de temps et trompé de moyens. 40 ans plus tard, âgé de 80 ans, comme quoi il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Hein. 80 ans. C'était le temps de Dieu à ce moment-là. Et pendant tout ce temps-là, 40 premières années, puis encore 40, 80 ans, Moïse a appris beaucoup de choses de la part de Dieu. Il a fallu 80 ans pour que Moïse soit prêt. 80 ans. Il y a de l'espoir pour les jeunes, hein. Vous allez encore attendre un petit peu, hein. Non, pas, faut tout de suite servir le Seigneur. 80 ans. 80 ans. Mais il y a des choses, même si on se consacre tout de suite au Seigneur, il nous faut nous consacrer tout de suite au Seigneur. Il y a aussi des choses dans l'accomplissement de la volonté de Dieu qui demandent du temps. Et Dieu travaille avec le temps. Et au bout de 80 ans, Moïse, il savait plus trop où il en était. Il était dans le désert, oublié de tous, mais pas de Dieu. Gardant les troupeaux de son beau-père, Jéthro, et c'est là que Dieu va lui parler, 80 ans. Et c'était le temps de Dieu. C'était le temps de Dieu. Dieu s'est révélé à lui et c'était le temps pour lui. Sachons attendre le temps de Dieu. Que le Seigneur dirige nos cœurs vers la patience de Christ. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cela. Mais parlant de la patience de Christ et nos cœurs qui doivent être dirigés vers cette patience-là, il y a plusieurs points, mais j'ai eu plus à cœur à vous parler des délais de la grâce de Dieu. Les délais de la grâce de Dieu. J'aimerais avec vous lire dans Luc chapitre 13, Luc chapitre 13, on peut lire à partir du premier verset pour bien comprendre. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point, coupez-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Cette parabole du figuier stérile vient, pour conclure, ce que Jésus vient de dire par rapport à la repentance. Et ici, nous voyons dans cette parabole un délai supplémentaire qui est accordé à ce figuier. Dans ces pays-là, les figuiers sont très prospères, ils donnent beaucoup de figues, surtout dans les vignes, c'est un endroit fertile. Donc le figuier a tout le soleil, il a tout ce qu'il doit avoir, la terre fertile, il doit tout, pour pouvoir produire une bonne récolte. Et ici, le propriétaire du figuier est venu pendant 3 ans de suite, chercher du fruit. Première année qu'il l'a planté, bon, on se dit, c'est la première année, c'est normal, il n'a pas pris de fruit, bon, ben, on reviendra l'année prochaine. Seconde année, toujours rien. Troisième année, toujours pas de fruits. Alors là, il dit au vigneron, ça sert à rien de continuer, il prend de la place, il puise dans la terre aussi de l'énergie, de l'eau qui pourrait être utile à la vigne ou peut-être à d'autres arbres, et en plus il occupe de la terre inutilement. Alors là, le vigneron va plaidoyer en faveur du figuier et lui demander un délai supplémentaire d'une année. Et le propriétaire donc de cette vigne va devoir attendre une année supplémentaire. La patience de Christ. Alléluia. Et Dieu se laisse fléchir. Dieu, dans sa compassion pour chacun de nous, dans sa miséricorde, il se laisse fléchir. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons le meilleur de tous les intercesseurs qui prient pour nous à la droite de Dieu le Père. Jésus-Christ le juste, alléluia, notre avocat auprès du Père. Il intercède pour nous. Nous n'en sommes pas conscients, on le sait, bien sûr, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais nous ne sommes pas toujours conscients de ce qui se passe dans les cieux, mais nous savons que Jésus, notre avocat, intercède pour nous, en notre faveur. Et Dieu se laisse fléchir à l'intercession de son Fils bien-aimé, à l'intercession de Christ qui est monté sur la croix, alléluia, pour chacun d'entre nous. Dieu se laisse fléchir et il donne un délai supplémentaire. Dans ce délai supplémentaire, il va y avoir un travail qui sera effectué par le vigneron, on va y revenir. Mais tout d'abord, j'aimerais donner quelques exemples de délais que Dieu a accordés à certaines personnes. Du temps de Noé, Dieu a accordé du temps. Dieu a accordé du temps. L'apôtre Pierre parle de la patience de Dieu qui se prolongeait au jour de Noé lorsqu'il construisit l'arche. 1 Pierre chapitre 3 verset 20. Dieu a prolongé sa patience. Qu'est-ce qui se passait en ce temps-là? Le Seigneur a décidé de détruire la terre. Et pour quelle raison? À cause de la violence qui était répandue sur toute la terre. La violence qui était répandue sur toute la terre. À cause de la corruption qui était là et de la confusion morale et spirituelle, à tel point que les fils de Dieu prenaient les fils de l'homme et s'unissaient, et ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Bon, on ne va pas ce matin faire de l'exégèse sur ce texte, parce que là, il y a beaucoup de possibilités par rapport à cela, mais c'est juste pour montrer qu'il y avait une confusion morale et spirituelle qui était là. Et il y a eu un décret de Dieu qui a dit qu'il allait détruire cette terre. Seulement, avant de cela, il fallait que l'arche que Dieu a demandé à Noé de construire soit finie. En combien d'années cette arche a-t-elle été construite? Un siècle. Bon, ils vivaient longtemps à l'époque, hein. Un siècle, 100 ans. Oui. Pendant ces 100 ans, il y a eu un sursis, un délai de grâce. Il est dit que la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé lorsqu'il construisit l'arche. Elle se prolongeait, 100 ans. Pendant 100 ans, ils ont vu cet homme avec sa famille construire cette arche. Il nous est dit que Noé était un prédicateur de la justice, donc il parlait, il faisait savoir le pourquoi de cette arche, ce qui allait se passer. Un prédicateur de la justice. Il y a eu pendant ce délai de grâce supplémentaire de la part de Dieu, ce délai de patience, il n'y a pas eu rien, il n'y a pas eu un silence, mais Noé était un prédicateur de la justice. Mais les hommes ont continué dans leur corruption, dans leur confusion, dans leur violence. Leur cœur n'a pas saisi ce délai de grâce, n'a pas été dirigé vers la patience de Dieu. À d'autres époques, Dieu a donné des délais plus ou moins courts à des peuples, à des villes, à des hommes, à des femmes. Jonas, envoyé à Ninive, criera pendant 3 jours, parce que la ville faisait 3 jours de marche. Il nous a dit que c'était une grande ville, donc encore 40 jours et je détruirai cette ville. 40 jours de délai. 40 jours de délai. Un délai de patience de 40 jours. Mais à la différence de l'époque de Noé, c'est que les hommes et les femmes de Ninive, à commencer par le roi, celui qui gouvernait toute la ville, ont été touchés dans leur cœur, ont été saisis dans leur cœur, et ils se sont repentis de leurs mauvaises actions. Cette ville qui était corrompue, elle aussi, cette ville qui n'arrivait même plus à distinguer le mal du bien, mais à ce moment-là, ils ont été saisis par la prédication de Jonas et ils se sont repentis. Dieu accorde des délais dans sa patience, des sursis. Dans un autre registre, un roi qui fut un roi exemplaire, Ézéchias, un roi qui a marché avec Dieu, fut malade et Dieu lui envoie un prophète, Ésaïe, pour lui dire, eh bien, donne tes ordres à ta maison, tu vas mourir. C'est direct, hein. Donne tes ordres à ta maison, tu vas mourir. Et là, Ésaïe pleure devant Dieu. Ézéchias, excusez-moi. Ézéchias pleure devant Dieu. Et Dieu va lui accorder un délai de 15 ans supplémentaires. 15 ans supplémentaires. Jusqu'ici, ce roi a bien marché avec Dieu. Il marchait dans la crainte du Seigneur. Il se détourner des idoles, voilà, il marchait avec Dieu, mais ces 15 ans de délai que Dieu va lui accorder, il les a pas mis à profit, comme il aurait fallu les mettre à profit. Et quand Dieu lui donne du temps, mettons à profit le temps que Dieu nous accorde. Et pendant ces 15 ans, Ézéchias va fléchir dans sa consécration. Et c'est pendant ce laps de temps-là que Manassé va naître, un roi terrible, horrible, qui commettra les pires choses. Ces 15 années ne furent pas les meilleures d'Ézéchias. Elles auraient pu être les meilleures, mais si Dieu m'accorde 15 ans de plus, je les mets à profit à fond pour lui. N'est-ce pas? Ce n'est pas ce que Ézéchias a fait. Revenons à notre parabole. Ce figuier ne portait pas de fruits. Or, nous savons, lorsque nous lisons Jean chapitre 15, on peut lire quelques versets, que la volonté de Dieu, c'est que nous portions du fruit. C'est que nous portions du fruit. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on le jette au feu et il brûle. Amen. On aurait pu lire encore, mais si nous portons du fruit, au verset 8, eh bien beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. En lisant ce texte de Jean chapitre 15, on voit que la volonté de Dieu, pour nous qui sommes en Christ, c'est que nous portions du fruit. Dans le texte de Luc 13, il est question de repentance. Et il est vrai que nous sommes appelés à produire du fruit digne de la repentance. On pourrait dire beaucoup de choses sur le fruit. Il y a le fruit de la repentance. Il y a le fruit de l'esprit. Il y a toutes sortes de fruits que nous sommes appelés à porter. Donc, Dieu veut que nous portions du fruit. Et pour cela, il y a tout un travail qui se fait dans nos cœurs, dans nos pensées, dans tout notre être. Il y a un travail qui se fait. Et ça se fait pas du jour au lendemain, comme de la même manière qu'un arbre ne va pas porter du fruit comme ça du jour au lendemain. Il faut du temps, il faut apporter un soin à l'arbre, peut-être greffé, enfin, il y a des choses à faire pour que l'arbre puisse porter du fruit. Et ce figuier, pour revenir à ce figuier, il ne porte pas de fruit. Il sert à quoi? Juste à faire de l'ombre? Justement, peut-être que cette ombre va nuire à la vigne, alors que lui, il ne sert à rien. Donc, le mieux, c'est de le couper. Nous sommes appelés, frères et sœurs, vraiment, les uns les autres, à porter du fruit pour le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, alléluia. Et ça, c'est entièrement gratuit de la part du Seigneur. Mais nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. Nous sommes sauvés pour accomplir ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Puissions-nous vraiment porter du fruit. Et pendant ce temps que Dieu nous accorde, mettons tout à profit pour porter du fruit. Puissions-nous comprendre la patience que Dieu a envers nous. Envers nous. Parce que non seulement parfois nous ne portons pas de bons fruits, mais malheureusement nous pouvons en porter de mauvais. Mais nous sommes au bénéfice de la patience de Christ. Alléluia. Quelle patience. Quelle patience. Pendant ce délai supplémentaire d'un an, suite au plaidoyer de ce vigneron, cette année va servir à prodiguer des soins à ce figuier afin de faire tout pour qu'il puisse porter du fruit. Alors, il va creuser autour et il va y mettre du fumier. Tout ce qui est nécessaire. Ce n'est pas parce que on est dans le temps de la patience de Dieu que ça y est, c'est bon. Hein. Je bénéficie de la patience de Dieu. Alléluia, il n'y a rien à faire. Si. Si. Il faut vraiment creuser, hein, profondément. Creuser. Creuser encore. Approfondir notre consécration. Les uns et les autres. Et y mettre du fumier, beaucoup de fumier. Hein. Puissions-nous nous tenir dans l'intimité avec Dieu et que cette parole de Dieu puisse vraiment nourrir notre âme. Parce que viendra un temps où il n'y aura plus de délai. Viendra un temps où il n'y aura plus de délai. Parce que la patience de Dieu sera à son terme. On ne sait pas quand, mais un jour, la patience de Dieu sera à son terme. Lisons 2-3 textes. Dans Ézéchiel chapitre 12. Ézéchiel chapitre 12. Fils de l'homme, verset 27, fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Ils prophétisent pour des temps éloignés. Voilà, c'est ce qu'ils disaient. Ils écoutaient le prophète Ézéchiel. Oh ben, oui, d'accord, mais c'est pas pour tout de suite. On a le temps, c'est pour des temps éloignés, verset 28. C'est pourquoi dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Lisons dans Apocalypse, chapitre 10, verset 6. Apocalypse 10, verset 6. Apocalypse 10, verset 6. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. On peut aussi traduire de délai, qu'il n'y aurait plus de temps. Et comme quoi aussi Dieu peut mettre un terme au délai qu'il accorde. Comme du temps d'Ézéchiel, comme en ce temps-là, comme dans des cas particuliers pour chacune de nos vies, Dieu peut mettre un terme au délai, à la patience qu'il a. On ne sait pas, mais la patience de Dieu est tellement phénoménale, tellement énorme. Voilà, on ne sait pas. Mais un jour ou l'autre, eh bien, c'est cette patience de Dieu, ce délai qu'il accorde sera terminé. Ésaïe, le prophète, dira « Est-ce trop peu que vous lassiez la patience des hommes pour que vous lassiez aussi celle de Dieu ?» La patience de Dieu nous tient dans l'humilité. C'est pour ça qu'il faut que nos cœurs soient dirigés vers la patience de Christ. Cela non seulement nous responsabilise et nous amène à nous mettre à l'œuvre dans notre foi, dans notre consécration, mais elle nous tient dans l'humilité. Elle nous tient dans l'humilité. Elle nous tient dans l'action de grâce aussi parce qu'on dit, mais Seigneur, quelle patience tu as envers moi. Quelle patience. Malgré mes fautes, malgré les fois où je me suis raté complètement, mais Seigneur, toujours tu étais là pour me relever. Tu as été patient et tu es encore patient. Cette patience de Dieu nous tient dans l'humilité. Et elle est un exemple pour nous. Elle est un exemple pour nous. On connaît cette parabole, on l'a évoquée 2 ou 3 fois d'ailleurs récemment. Dans Matthieu 18, 26, c'est la parabole du serviteur impitoyable. On va y revenir, on l'a vu, on l'a On en a parlé la mardi soir, mais aussi un dimanche matin. Matthieu 18, verset 26. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » On va se contenter de ce verset. On ne va pas lire toute la parabole qui est un enseignement sur le pardon. Et ici, on a un homme, un serviteur, qui devait 10 000 talents. C'est une somme colossale pour l'époque, que seul Elon Musk pourrait payer. Mais, et patience. Il réclame la patience. Alors, le maître de ce serviteur, va agir non seulement avec patience, mais il va agir avec bonté. Et l'apôtre Paul joint aussi les deux dans Romains chapitre 2, verset 4. « Méprises-tu la bonté et la patience de Dieu qui te poussent à la repentance ?» Il y a ici la manifestation de la bonté et de la patience de ce maître. Mais il pourrait dire « Mais voilà, j'ai bénéficié de cette remise de dette. C'est un exemple pour moi. » Parce qu'il avait un de ses compagnons qui lui devait une petite somme dérisoire et sans denier. Et il lui fait la même prière, la même demande au verset 29. « Aie patience envers moi et je te paierai. » Bon, il aurait pu au moins agir avec patience. S'il n'arrivait pas à agir avec bonté, il aurait pu au moins agir avec patience. Parce qu'il en bénéficiait. Puissions-nous vraiment avoir nos yeux fixés sur le Seigneur qui a été patient, que nos cœurs soient dirigé vers la patience de Christ. C'est un exemple pour nous. C'est un exemple pour nous dans nos relations que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Soyons patients les uns avec les autres, les uns envers les autres. L'amour est patient. Parfois, on pourrait être pressé que quelqu'un qui peut-être avec qui on a un petit différend... nous demande pardon plus rapidement, mais il faut du temps parfois, il faut que les choses s'assimilent dans les pensées, dans le cœur. Soyons patients. On pourrait être pressé, impatient, que les choses avancent plus vite dans l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu peut aller très vite comme elle peut aller doucement. Comme dira Jacob, marcher au pas du troupeau. On aimerait bien parfois que les choses aillent plus vite. Mais il n'en est pas ainsi. Soyons donc patients, vraiment, comme le Seigneur a été patient. C'est un exemple pour nous. Entre le moment où l'Éternel a fait la promesse à Adam et Ève que quelqu'un de sa postérité écraserait la tête du serpent, il s'est passé environ 4000 ans. Plusieurs milliers d'années. Patience de Dieu. Entre le moment de la résurrection du Seigneur et le moment où il va revenir, là on ne sait pas. Mais c'est déjà passé 2000 ans. Patience de Dieu. Waouh. Merci Seigneur de ne pas être revenu avant. La patience de Dieu est un exemple pour nous. Elle est un exemple dans nos relations les uns vis-à-vis des autres, dans la vie de l'Église, dans la vie de l'Église, dans l'œuvre de Dieu. Il y a des choses qui demandent du temps, mais Dieu est au contrôle. Il y a des choses que nous avons sur le cœur, il y a des promesses que nous avons reçues dans notre cœur, mais puissions-nous réaliser quelle est la patience de Christ. Si la promesse tarde, attends-la. C'est écrit. Car elle s'accomplira certainement. Si Dieu dit une chose, ça va s'accomplir. Le problème, c'est que nous, on ne sait pas quand. Alors Seigneur, donne-moi la patience. Hein. Donne-moi de la patience, Seigneur Jésus. C'est aussi un fruit de l'Esprit. C'est le fruit. Puissions-nous porter aussi ce fruit. Que Dieu nous accorde encore du temps. Que Dieu nous accorde encore un délai. Ce délai-là, cette patience de Dieu, elle est notre salut, comme dit l'apôtre Pierre. Que son nom soit glorifié. On va ensemble remercier notre Seigneur de tout notre cœur. Merci Seigneur. pour ta patience. Quel bonheur, Seigneur, de savoir que nous avons affaire à un Dieu qui est patient. Quelle grâce, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, nous te demandons merci pour ta patience à notre égard. Malgré nos manquements, nos péchés, nos erreurs, nos faiblesses, nos limites, tu te montres toujours patient envers nous. Et tu nous donnes du temps. Mais nous ne voulons pas mépriser ce temps que tu nous donnes, Seigneur. Nous ne voulons pas non seulement le mépriser, mais le négliger, mais le mettre à profit. Merci, Seigneur, que nos cœurs soient toujours dirigés vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. Aide-nous, Seigneur, à marcher comme toi-même tu as pu marcher, Seigneur. Nous voulons te ressembler en toutes choses. Merci pour ton Église, Seigneur, que tu bénis, Seigneur. Que tu bénis, Seigneur. Agis encore au sein de ton peuple, Seigneur. Par ton esprit, Seigneur Jésus, agis. Que ton nom soit béni, Seigneur. Et toutes ces années que les sauterelles ont dévorées, Seigneur, toi, tu peux les restaurer en un clin d'œil même. Alors nous voulons te faire confiance. Gloire à ton nom, Jésus. Amen.